Et c'est le journal de Nicolas Crozel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Karine, bonjour à tous. La conquête de l'espace à la une ce matin. Le milliardaire américain Jeff Bezos doit décoller tout à l'heure du Texas pour son plaisir et pour montrer au monde entier qu'il se lance dans le business du tourisme spatial. On y revient dans un instant. Dans ce journal également, le Covid sur le plancher des vaches. Quatrième vague du virus en France, on y est. Le pass sanitaire étendu, oui, dit le Conseil d'État, en tout cas dans les grandes lignes. Et le Conseil des ministres adopte le texte dans la foulée. Et puis la fin des voitures les plus polluantes dans les centres-villes d'ici 4 ans. C'est l'une des mesures phares de la loi climat, votée définitivement tout à l'heure.
Tout à l'heure à 7h50, on fait le point sur la situation sanitaire. Quel été allons-nous passer? À quoi va ressembler la rentrée? L'épidémiologiste Dominique Costagdiola sera notre invité tout à l'heure sur France Inter.
France Inter.
Voyager dans l'espace pour son plaisir, c'est désormais une réalité.
En tout cas pour certains, Hergé nous avait fait rêver avec Tintin et le capitaine Haddock partis en touriste sur la Lune. Des milliardaires américains en font désormais leur business, exemple avec Jeff Bezos, l'ancien patron d'Amazon qui décollera tout à l'heure, a priori, hein, tout à l'heure, du Texas avec lui. Il aura son frère invité, une pionnière de l'aviation, Wally Funk, 82 ans, invité elle aussi. Et Olivier Damen, un néerlandais de 18 ans qui a gagné sa place aux enchères car le tourisme spatial suscite, Sophie Becherel, un vrai engouement.
Trois entreprises se sont déjà positionnées sur le marché du tourisme spatial. Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk ne proposent pas forcément la même expérience. Quelques minutes à 100 km d'altitude pour les premiers, de quoi ressentir la pesanteur. Un voyage et un séjour dans la Station Spatiale Internationale pour le troisième Elon Musk. Mais que vont faire ces touristes aux côtés d'un équipage professionnel? Bonne question, répond Thomas Pesquet.
Nous, on travaille quand même 12h30 par jour, tous les jours, du matin au soir. Enfin, le boulot est infini dans la station, quasiment par définition, donc d'avoir à côté des gars qui sont là pour regarder par la fenêtre et prendre des photos. Déjà, ça peut être un petit peu étrange, mais en plus, ce qu'on se demande, c'est s'ils veulent être en photo, il faut que quelqu'un la prenne, la photo sur laquelle ils apparaissent. Donc, est-ce qu'on va nous demander à nous, en gros, de s'occuper d'eux? Il va falloir définir un peu des règles et puis que tout ça se mette en place, on va dire.
L'astronaute n'est cependant pas hostile au tourisme spatial. Pour lui, cela permet de relever des défis techniques et de créer des emplois. Le designer Philippe Stark, quant à lui, imagine carrément notre futur dans l'espace. Alors, autant le rendre plus confortable. Pour la société Axiom, il a conçu l'habillage d'un module entier.
Moi, c'est volontairement joli, doux et charmant. Donc la couleur est ivoire légèrement rosé, les lumières évidemment des blancs rosés très chauds. Donc on n'est pas dans une machine. On parle clairement d'œuf, de ventre maternel.
Ce module destiné aux scientifiques et aux astronautes pourrait compléter l'ISS en 2024.
Beaucoup plus terre à terre, la réalité de cet été en France, c'est une quatrième vague de Covid. Le variant Delta se propage à la vitesse de l'éclair, a dit hier soir le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Le Conseil des ministres adopte les nouvelles restrictions, le pass sanitaire début août pour les bars et restaurants, les soignants vaccinés obligatoirement au 15 septembre, députés et sénateurs voteront d'ici vendredi ce texte qui a été validé dans ses grandes lignes par le Conseil d'État. Une exception, l'accès aux centres commerciaux sur présentation du pass sanitaire. Le Conseil d'État dénonce une atteinte disproportionnée aux libertés. Et pour ceux qui sont réticents au vaccin et qui ne pourront donc pas afficher ce pass sanitaire dès demain, aujourd'hui c'est le dernier jour par exemple pour aller au cinéma, au théâtre, au musée, au concert. La ruée dans les salles obscures, reportage à Montparnasse à Paris, Cyril Ardo.
Certains comme Jason ont un programme pour le moins chargé.
J'ai vu The Fader, mon premier, et j'en ai trois autres encore. J'aime beaucoup le ciné et c'est dommage de contraindre les gens à ce pass sanitaire pour de telles activités en fait. Alors que bon, les cinés, comme vous voyez, bah, on a le masque, les gestes barrières sont respectés, il y a très peu de clusters aussi dans ces cinés.
Si lui ne veut pas se faire vacciner, d'autres n'ont juste pas encore reçu les injections. Julien vient de prendre rendez-vous.
Première date 28 juillet et pour la deuxième injection le 18 août. Donc on profite du cinéma en attendant. Avant de louper plein de films intéressants et tout. Suicide Squad, je crois que c'est celui que j'attendais le plus.
Sa privation de cinéma va donc durer quelques semaines, mais il a de quoi s'occuper en attendant.
Ouais, Netflix, Amazon Prime, Disney+, donc ça va, il y a quand même de quoi regarder.
Mika, elle, compte annuler sa carte illimitée. Farouchement opposée au pass sanitaire, elle ne pense pas remettre les pieds dans un cinéma avant de nombreux mois.
Un peu de culture en moins, on en a déjà pas beaucoup qui soit abordable. C'est désolant, c'est affligeant. La France est censée être un pays de culture et voilà, on en arrive.
D'autant qu'elle refuse aussi les tests PCR.
Ça, c'est de la peur pure et simple. J'ai peur de la douleur physique et si on m'anesthésie, je veux bien, mais sinon, c'est hors de question.
Et les 12-18 ans n'ont pour le moment pas besoin de présenter un pass sanitaire. Il ne sera obligatoire pour eux qu'à partir du 30 août.
Et si on en est là, c'est à cause des variants dont on n'a pas fini d'entendre parler. L'Organisation mondiale de la santé n'est pas franchement optimiste. De nouvelles formes du Covid sont attendues, certaines plus contagieuses, d'autres plus virulentes, parfois les deux. Véronique Julia, les experts surveillent tout ça comme le lait sur le feu.
Plus un virus circule, plus il va muter. Il se réplique en faisant des petites erreurs. Ce sont les mutations. Beaucoup sont sans conséquences. Parfois, elles affaiblissent le virus et parfois, elles le renforcent. Des mutations, il y en a des milliers. On les signale quand elles peuvent changer la physionomie de l'épidémie parce qu'elles induisent plus de virulence ou de contagiosité. Ainsi, aujourd'hui, dans le monde, une trentaine de variants sont particulièrement observés. Les variants dits préoccupants, comme le Delta ou l'Alpha, les variants dits à suivre ou variants d'intérêt, le variant Eta qu'on trouve au Nigeria, le Kappa qu'on trouve en Inde, le Lambda du Pérou, le Iota, les variants enfin sous surveillance, Epsilon, Zeta ou Theta. Ces mêmes variants se retrouvent parfois dans plusieurs régions du monde. Le Lambda par exemple circule aussi en France. On leur retrouve parfois des mutations en commun. Au fil du temps, ils peuvent acquérir de nouvelles mutations. Ils peuvent aussi, et c'est un risque, se recombiner entre eux. Souvent c'est le cas des Beta, Gamma ou Epsilon. Ils sont 2 à 3 fois moins neutralisés par les anticorps des vaccins. Pour l'instant, c'est malgré tout leur transmissibilité accrue qui inquiète, plus que leur résistance au vaccin encore limitée. Le vaccin qui reste encore le meilleur moyen d'empêcher leur prolifération.
Véronique Julia.
La traque se poursuit à Gréolières, dans les Alpes-Maritimes.
Dans une zone escarpée et sauvage, quelques 200 gendarmes et forces d'élite toujours mobilisés pour retrouver un homme de 33 ans armé et dangereux, soupçonné d'avoir tué une femme de 32 ans dimanche. Un suspect jusqu'à présent sans histoire qui aurait été pris d'un coup de folie meurtrière, selon le patron des gendarmes du département. Des tirs de roquettes ce matin près du palais présidentiel à Kaboul, en Afghanistan, en pleine fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Le président Ashraf Ghani et des personnes qui étaient présentes avec lui ont dû interrompre leurs prières. Hier, c'est un attentat qui a décimé un marché populaire de Bagdad en Irak. Plus d'une trentaine de morts et des dizaines de blessés. Attentat revendiqué par le groupe terroriste État islamique.
La loi climat et résilience sera adoptée définitivement par le Parlement cet après-midi.
Ah oui, alors qu'on apprend aujourd'hui que les émissions mondiales de COD devraient atteindre un niveau jamais vu en 2023. C'est ce qu'annonce l'Agence internationale de l'énergie. Ici même, donc en France, cette loi sera votée tout à l'heure. Elle est issue de la Convention citoyenne lancée il y a plus d'un an par le chef de l'État. On en retient entre autres la chasse aux vieilles voitures dans les centres-villes, Sandy Dauphin.
C'est sans doute la mesure la plus débattue. Dans la version finale du texte, les nouvelles restrictions de circulation pour les voitures les plus polluantes entrent en vigueur d'ici 2025 dans les villes de plus de 150 000 habitants, les fameuses zones à faible émission. Il y en aura 35 de plus que les 10 actuellement dans les tuyaux. Les sénateurs n'ont pas réussi à repousser le calendrier. En revanche, ils obtiennent un coup de pouce supplémentaire pour aider les familles modestes à changer de voiture avec la mise en place d'un prêt à taux zéro à partir de 2023. Au chapitre de la rénovation énergétique, pour inciter les propriétaires à faire des travaux dans ce qu'on appelle des passoires thermiques, la location des logements classés G sera interdite dès 2025 et à partir de 2028 pour les F. Petite révolution dans les cantines scolaires, l'obligation d'un menu végétarien par semaine figure dans le texte final. En revanche, 2 mesures ajoutées par les sénateurs ont été gommées. Il n'y aura pas de baisse de la TVA sur les billets de train et les maires n'auront pas de droit de veto sur l'implantation des éoliennes.
Sandy Dauphin, le compte n'y est pas, disent plusieurs associations de défense de l'environnement qui appellent à manifester devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Le climat, justement, et ses dérèglements, journée de deuil national en Belgique après les terribles inondations de la semaine dernière, des intempéries qui ont aussi frappé l'Allemagne. Le bilan toujours provisoire est de près de 200 morts et des dizaines de disparus. Autre exemple d'un climat déboussolé, les moissons ont pris du retard en Moselle à cause des pluies de la semaine dernière, mais aussi du mauvais temps de début juillet. Et ça peut coûter cher. Par exemple, à Jean-François Schmitt, sur son exploitation de 250 hectares à Mézeri, à l'est de Metz, il cultive plusieurs céréales. Antoine Geoffin, vous avez grimpé dans la cabine de sa moissonneuse.
Les yeux sur son champ et son écran, les mains sur le volant, l'agriculteur dévale la parcelle. Ah, on sent tout de suite que Jean-François Schmitt a mis le turbo.
Dès qu'on a vu le beau temps, il fallait être dans les starting blocks pour démarrer. Vraiment tout de suite. D'habitude, ça nous arrive de commencer fin juin, on démarre. C'est la pluie, le froid, le non-ensoleillement qui nous a fait prendre énormément de retard.
Et il faut bien le combler, mais pas facile de s'organiser.
C'est une année très stressante pour nous. Le temps de travail est très restreint. Les années précédentes, C'était assez carré, on faisait l'orge, on faisait le colza, on faisait le blé. Cette année, on a tout en même temps. Il va nous falloir presque 15 jours, 3 semaines de très beau temps pour qu'on puisse faire des grosses journées et travailler correctement.
Son travail est délicat. Sur les parcelles non drainées, les sols restent humides. Il manœuvre donc avec précaution pour que la moissonneuse ne s'embourbe pas. Attention aussi, il faut toujours rester en mouvement pour ne pas abîmer les sols. Et puis la pluie a déjà un impact sur la qualité de l'orge.
On a beaucoup perdu en poids spécifique. Donc c'est le poids de la graine, parce qu'à chaque fois qu'elle prend l'humidité, elle doit ressécher pour qu'on puisse la récolter. Et à chaque fois qu'il pleut, du coup, elle est moins lourde. Donc on perd au niveau du poids du grain, elle donne moins.
Pour l'instant, Jean-François Schmitt n'a pas trop perdu, agréablement surpris. Mais si la pluie revient, il l'assure, le manque à gagner sera terrible.
Antoine Geoffin, France Bleu Lorraine pour France Inter. L'argent peut permettre des folies, on l'a vu en début de journal avec le milliardaire américain Jeff Bezos qui s'envole donc dans l'espace pour son plaisir. Mais l'argent ne fait pas forcément le bonheur, c'est bien connu. Et c'est tout le propos de The White Lotus, nouvelle mini-série produite par HBO, à découvrir en ce moment en France sur la chaîne payante OCS. Alexandra Hakoun, vous avez aimé cette comédie grinçante sur les riches clients d'un hôtel de luxe à Hawaï.
Welcome to the White Lotus.
Un paysage de cartes postales, un palace d'Honolulu avec végétation luxuriante et plages de sable blanc, où le personnel est souriant et prévenant avec la clientèle très VIP.
You have to treat these people like sensitive children. They just need to feel seen.
Les nouveaux arrivants ne font pas exception, ils sont tous riches, blancs et insupportables, comme ce jeune marié, fils à sa maman, persuadé que tout lui est dû.
I did a virtual tour on the website. This isn't it.
Ou cette célibataire venue avec sa mère dans une urne.
I brought my mother's ashes with me so I could spread them in the ocean.
Des clients jamais contents qui petit à petit vont pousser à bout le manager de l'hôtel. Après l'excellente Unlighted, le scénariste et showrunner Mike White poursuit son étude de la société américaine. Il nous livre ici une satire sociale des plus grinçantes où le roi de l'art a transformé ses sujets en êtres creux, veulent et auto-centrés. Le showrunner ne s'interdit rien, pas même un gros plan sur des testicules. C'est déjanté, outrancier, la parfaite mini-série de l'été.
Ça s'appelle The White Lotus sur la chaîne payante OCS en France. Un épisode chaque semaine jusqu'à la mi-août.
Quelle affaire ! Merci Nicolas Crozel, je vous dis à demain. À suivre l'édito éco.